Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
L'actualité écho, décryptée par des acteurs, des chercheurs, des journalistes, c'est tous les vendredis à 14h dans Entendez-vous l'écho sur France Culture. Aujourd'hui, après la chute de Carlos Ghosn, l'alliance Renault-Nissan pourrait-elle tomber en panne ? Dans les années 2000, il était le héros qui avait réussi l'exploit de redresser Nissan. Aujourd'hui, Carlos Ghosn est détenu à Tokyo pour des soupçons d'abus de biens sociaux et de fraude fiscale. Une dégringolade spectaculaire qui touche ici l'un des plus puissants capitaines d'industrie du monde, finalement destitué hier de son poste à la tête de Nissan. L'affaire secoue le monde de l'automobile et questionne l'avenir de l'alliance entre Renault, Nissan et Mitsubishi. Comment le géant de l'auto survivra-t-il au départ de Carlos Ghosn ? Et quelles conséquences l'affaire aura-t-elle sur Renault ? Voilà les questions que l'on va poser à nos trois invités. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, c'est dans les pages du Capital de Marx que l'on se plongera en compagnie de Bruno Tinel. Trois invités pour parler de l'avenir du géant automobile donc. Bonjour Bernard Julien.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en économie et directeur du GERPISA, le groupe d'études et de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile. À vos côtés, Fabien Gache, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué général central CGT chez Renault France. Et enfin, Julien Dupont-Calbeau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste aux Échos, spécialiste du secteur automobile. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
Je suis plus que désolé. Je ressens une grande colère et une grande déception. La leçon que nous devons tirer de l'ère Carlos Ghosn, c'est que c'est un problème que tant d'autorités aient été accordées à une seule personne.
Les mots d'Hiroto Sakawa, le patron de Nissan, lors de la conférence de presse qui s'est tenue lundi au siège du groupe. Un premier tour de table, d'abord en réaction à ces propos. L'une des leçons à tirer de cette crise, Bernard Julien, c'est que Carlos Ghosn a eu trop de pouvoir entre les mains.
Carlos Ghosn, pendant de très longues années, a d'abord dirigé d'une main de fer Nissan avec des pouvoirs assez extraordinaires qui étaient liés à la nécessité dans laquelle il était de redresser Nissan. Et puis, il a ensuite pris en 2005 la direction de Renault et dirigé Renault un peu sur le même mode finalement. Hein, et par conséquent, c'est vrai que on l'avait perçu déjà, par exemple, lors de l'épisode de l'espionnage, il y avait une forme d'autocratie avec un défaut de contre-pouvoir, des phénomènes de cour, etc., qui ne pouvaient pas ne pas se manifester un jour ou l'autre. Hein. C'est un peu comme quand vous avez un maire de grande ville qui fait 5 ou 6 mandats, ça finit par générer des effets qui sont potentiellement dommageables à l'entreprise.
Mais alors pour certains observateurs, cette concentration de pouvoir entre les mains de Carlos Ghosn, c'est ce qui a permis justement à l'alliance entre Nissan, Renault et plus récemment Mitsubishi de fonctionner. Qu'est-ce que vous en pensez, Julien Dupont-Calbeau ?
C'est sûr qu'avoir Carlos Ghosn à la fois à la tête de Renault et à la tête de Nissan, deux groupes qu'il connaissait très bien, ça a permis effectivement de rapprocher les cultures qui étaient assez différentes il y a 20 ans entre ces deux constructeurs-là. Et donc avoir une seule personne à la tête de ces deux groupes, ça a pu faire avancer les choses.
Alors Fabien Gache, sur cette concentration des pouvoirs ?
Je pense pas non qu'il y ait eu un rapprochement des cultures. En tout cas dans la vie quotidienne de l'entreprise, ça n'apparaît pas. D'autre part, effectivement, oui, il y a de la part de Carlos Ghosn qui a posé de gros problèmes à Renault en tant que fonctionnement d'entreprise, c'est que peu ont eu le courage ou la capacité de lui dire ce qui n'allait pas ou ce qui pourrait être remis en discussion, et on en paye aussi les pots cassés.
En tout cas, Carlos Ghosn a fait en sorte, Bernard Julien, que pendant longtemps, il n'y ait pas de numéro 2. Thierry Bolloré, par exemple, est devenu numéro 2 de Renault en février 2018, mais pendant longtemps, il a été très seul au pouvoir.
Oui, il a effectivement, avec cette idée selon laquelle c'est lui qui tenait l'alliance, réussi à obtenir le plein pouvoir des deux côtés. Hein. Donc même du côté Nissan, si vous voulez, le Sakawa, il se tait jusqu'au jour où il sait qu'il va tuer Ghosn. Hein. Donc il y a quand même un truc un peu symptomatique de ce que il a mis chacun dans une espèce d'incapacité de lui tenir tête, de souligner les problèmes potentiels qu'il y avait. Hein, et c'est vrai que ça permet de maintenir l'alliance ensemble d'une certaine manière, mais dire que ça a permis de faire coopérer les Renault et les Nissan, ça d'évidence était beaucoup moins vrai.
Oui, parce qu'il, ce qu'il faut expliquer, c'est que Hiroto Sakawa, donc aujourd'hui patron de Nissan, était vraiment le poulain de Carlos Ghosn, Julien Dupont-Calbo. Donc il y a cette idée, un peu cette représentation qu'on peut avoir de Brutus portant le coup à César.
C'est vrai que c'est l'image qui vient assez rapidement à l'esprit. C'est sûr que quand Hiroto Sakawa a été nommé, propulsé successeur officiel de Carlos Ghosn chez Nissan, c'était il y a deux ans si je ne me trompe pas, Carlos Ghosn le présentait comme un fidèle, comme quelqu'un en qui il pouvait avoir entièrement confiance. Et effectivement, deux ans plus tard...
Alors par ailleurs, une société cotée en bourse doit rendre des comptes à ses actionnaires. Et là, on fait face à une grande opacité. Fabien Gage, comment comprendre que Carlos Ghosn ait pu dissimuler ses revenus pendant des années si jamais les faits étaient véritablement avérés ?
Ah ben c'est bien une question. Enfin d'abord, je pense qu'il faudra quand même dépersonnaliser un peu la question, parce que Carlos Ghosn, malgré tout, malgré ce qui vient d'être dit, n'était pas non plus tout seul et a poursuivi une logique qui était entamée déjà par Louis Schweitzer. Il suffit de lire le livre de Louis Schweitzer sur la finalité de l'entreprise visant à répondre en premier lieu aux besoins des actionnaires, en tout cas à leurs exigences, plutôt qu'à travailler la question industrielle ou du développement de l'entreprise. Ceci étant, effectivement, c'est une vraie question. Si les faits sont avérés, et alors ça c'est vrai au Japon comme c'est vrai en France d'ailleurs, dans quelle mesure il n'y ait aucun contrôle possible, qu'il n'y ait pas la transparence la plus totale, à la fois sur le montant exorbitant, voire largement décrié par les salariés de ces rémunérations, mais qui plus est de la gestion courante, c'est-à-dire de chacun peut faire ce qu'il veut sans que personne ne puisse avoir son mot à dire.
Ce qui pose aussi la question des éventuelles complicités qui peuvent exister au sein de Nissan, Bernard Julien.
Oui, hein, il est évident que il y a les faits, il y a le moment où ça intervient, et puis il y a ensuite les complicités, les connivences qui ont permis que tout ça se joue. Hein, donc on n'a pas fini avec cette histoire-là parce que on l'entend au Japon depuis le début de la semaine. Hein, il y a des espèces de révélations tous les jours. Pour l'instant, on a une actualité qui est très concentrée sur la personnalité de Ghosn. Mmh. Évidemment, ça va contaminer derrière, quoi.
Alors avant de voir les conséquences que la chute de Carlos Ghosn pourrait avoir sur l'alliance, revenons aux origines de ce mariage entre Renault et Nissan. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Bernard Julien, comment cette gigantesque alliance s'est construite ?
Au départ, il y a des déconvenues très importantes de Nissan, hein, qui étaient en perdition, qui ressemblent un petit peu à PSA 2013, hein, si les Français s'en souviennent. Et il y a effectivement une entreprise qui est assez forte technologiquement, mais qui, économiquement, a laissé filer à peu près tout, quoi. Et du coup, effectivement, c'est une entreprise qui est rachetable pour pas très cher, et deux, quand on est hors de cette culture-là, les leviers qui vont permettre le redressement, c'est une copie de MBA, si vous voulez, c'est pas très compliqué. Hein, et à ce moment-là, Ghosn, il arrive avec une team qui va effectivement serrer les boulons sur les achats, reprendre les process industriels, éviter que les petites bagnoles soient de trop grande qualité, etc.
Là, on est en 1999.
Voilà, et là, vous avez effectivement avec les pleins pouvoirs qui lui sont donnés, la capacité de faire à peu près ce qu'il veut en matière de licenciement, de dénonciation, des accords avec des fournisseurs clés, etc. Il arrive à faire assez bien le job, hein, et ça lui donne un statut parce qu'il a quand même sauvé une entreprise qui est un employeur majeur sur la région de Tokyo, et donc on se félicite côté français comme côté japonais de cette embauche de la personne qui s'est redressée.
Le fait d'avoir réussi à relever Nissan, Julien Dupont-Calbo, ça a vraiment donné à Carlos Ghosn cette image de héros. On dit qu'il y a un manga qui aurait été réalisé pour raconter son parcours.
C'est sûr qu'avant son commando réussi chez Nissan, personne ne connaissait vraiment Louis Schweitzer. Enfin, personne ne le connaissait, Carlos Ghosn, sur la planète automobile. Il s'est vraiment fait un nom en rétablissant Nissan en quelques années. Et depuis, en fait, beaucoup le considéraient un peu comme un dieu vivant au Japon. Il y a même un manga qui parle de Carlos Ghosn, dont il est le héros. Et aujourd'hui, cette icône a été déboulonnée
Et très vite, en effet. Et alors, cette alliance, on peut dire qu'elle a mis du temps à trouver son équilibre, Fabien Gache.
Ah bah, je ne sais pas si elle a trouvé un équilibre, de toute façon, aujourd'hui, mais quand même, une remarque, c'est quand on parle de réussite quant au redressement de chez Nissan, c'est quand même un peu oublié les plus de 20 000 suppressions d'emplois qu'il y a eu chez Nissan, et je ne suis pas absolument convaincu, pour avoir quelques contacts avec un syndicat japonais, que la perception des salariés eux-mêmes soit aussi mirobolante au vu de l'aspect social. D'autre part, quand on connaît un peu la manière dont les entreprises de chez Nissan, dans les établissements de chez Nissan, je pense en particulier à Nissan Mississippi, qui a fait un peu l'objet de l'actualité il y a quelques mois, on voit bien que les méthodes managériales de chez Nissan sont particulièrement totalitaires et antisyndical. Donc évidemment que nous, on a un regard quelque peu différencié du regard en règle générale qui est plutôt très positif de la part des principaux actionnaires.
Alors quels avantages Renault et Nissan ont-ils tiré de cette alliance? On a le sentiment d'avis un peu divergents sur est-ce que ce serait plutôt Nissan qui aurait attiré des avantages de ce partenariat ou plutôt Renault. Quel est votre avis, Bernard Julien?
Bah, si vous voulez, on est dans une industrie dans laquelle les volumes comptent, hein, et par conséquent, la première des choses qui a été faite par l'Alliance, hein, c'est de centraliser les achats avec des effets qui sont éventuellement problématiques pour la sous-traitance, mais ça permet de faire baisser les prix.
Plus de 60% des véhicules Renault et Nissan passent par des plateformes communes aujourd'hui, c'est cela?
Oui, alors ça, c'est la dimension plateforme commune qui a été beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, hein, parce que évidemment,
c'est assez récent, ça.
Là, vous avez nécessité de converger sur des méthodes de conception des véhicules, etc. Hein, donc ça a été plus compliqué. Hein, donc l'intérêt ou l'intelligence de cette idée d'alliance, c'était de partir du plus facile en allant vers le plus difficile, en disant on sait bien qu'on est fort différent et on ne sait pas jusqu'où on pourra aller dans la mise en commun des méthodes. Mmh. Hein, donc c'est une manière de se distancier un petit peu par rapport, je dirais, aux standards managériaux qui disent qu'il faut tout intégrer tout de suite, etc., pour dire il y a quand même beaucoup d'échecs en matière d'intégration totale, on va y aller un peu progressivement, et ça, c'est une formule qui a été assez à droite, je dirais, à la fois politiquement et fonctionnellement, avec évidemment un truc un peu baroque, hein, qui disconvient aux analystes financiers, à la presse financière internationale, et qui a été difficile à faire vivre comme tel, mais qui, je dirais peut-être, Fabien Gache nous démentira, mais qui de l'intérieur était à peu près la seule manière praticable de faire, côté Renault comme côté Nissan.
Et justement, à quelles difficultés a été confronté Renault et Nissan pour mettre en commun ces méthodes, oui. Julien Dupont-Calvo?
En fait, ils ont commencé par le plus simple, effectivement, comme disait
monsieur Bernard Julien.
Ils ont commencé par les achats, pour économiser avec les volumes, plus on achète de pièces, moins elles coûtent cher à l'unité. Après, ils ont commencé par essayer de faire des plateformes en commun. Là, c'est un travail qui est encore en cours, qui a commencé, mais qui n'est pas encore allé jusqu'à son terme.
Et depuis ça permettrait en tout cas, pardon de vous interrompre, mais de réduire de 40% le coût de développement d'un nouveau modèle.
Exactement, c'est ça. Et on essaye de plus en plus aussi de faire des productions communes. Par exemple, à Flins, que vous connaissez bien, il y a la Nissan Micra qui est fabriquée depuis quelques temps. Ceci dit, effectivement, c'était peut-être la seule voie d'aller très 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 progressivement dans l'intégration entre les deux groupes. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que quand on compare un petit peu Renault-Nissan, qui est un géant mondial, qui vend autant de voitures que le groupe Volkswagen ou que Toyota, les deux autres cadors de l'industrie.
10,6 millions.
Voilà, ils sont vraiment coude à coude, ça dépend comment on compte, pour voir qui est premier, qui est devant, qui est derrière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'autant en termes de volume, les trois groupes sont presque à égalité, autant en termes de performance économique, Renault-Nissan est quand même beaucoup moins performant que Volkswagen, et surtout que Toyota, qui est quand même beaucoup plus rentable que Renault-Nissan. Et ça, ça démontre bien le manque d'intégration entre les deux entités.
Et c'est aussi une série de brevets que l'Alliance partage, notamment dans la voiture électrique, et ça, c'est un avantage qui est décisif dans l'automobile, Bernard Julien.
Oui, je prendrai quelques distances avec cette idée de performance économique, parce qu'au fond, il y a une problématique qui est aussi de soutenabilité, disons, de la. Hein. Mmh. Et l'Alliance aujourd'hui, parce qu'elle a préservé des identités différenciées, permet d'être présent sur des terrains géographiques et technologiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein, vous avez deux génétiques qui sont très différentes et qui, si elles sont préservées, permettent d'appréhender des territoires et des technologies sur des modes différents. Hein, et donc c'est vrai que il y a un arbitrage à rendre à ce niveau-là. Il y a une tentation d'intégration qui correspond à l'application de standards en termes de coûts, de performances économiques, etc., qui est une tentation qui a peut-être été, hélas, celle de l'État français dans le traitement du dossier. Et puis il y a une réalité qui est celle de l'Alliance, quand on la regarde un peu finement, qui a bien fonctionné depuis 20 ans, avec des territoires d'excellence qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui correspondent à des manières de voir les choses qui ne sont pas unifiées.
Fabien Gage, sur les difficultés de la mise en commun des méthodes entre Renault et Nissan.
Moi, évidemment, j'aurai un regard qui ne sera pas un regard qui du haut, mais plutôt du bas, au sens non pas capitalistique ou des résultats financiers d'entreprise, mais je veux dire de la réalité de ce qu'est Renault aujourd'hui en France. Je prendrai simplement deux chiffres pour illustrer. J'ai pris 2005, puisque 2005, Carlos Ghosn était PDG. La France répondait à 53% de la production de Renault au plan européen quand on y intègre la Turquie. Fin 2017, on est à 19%. Si on regarde l'évolution du véhicule utilitaire, on fabrique moins de véhicules utilitaires aujourd'hui en France avec les véhicules partenaires qu'on en fabriquait en 2005.
Beaucoup de délocalisation au Maghreb,
voilà.
Notamment.
Deuxième chose, c'est que le problème, c'est que la manière dont on présente Renault, c'est qu'on confond un peu les choses. Si on regarde l'évolution des ventes de Renault, en excluant toute la gamme Dacia, qui est badgé Renault et comptabilisé dans les ventes Renault. Donc on va rester sur ce qu'était Renault en 2000, ce qu'il est aujourd'hui. On vend moins de Renault aujourd'hui, 1,8 million que c'était en 2005, qu'on en vendait, encore une fois, en 2005, malgré l'internationalisation. Alors la question qui était assez claire pour nous, c'est d'une part, sur le plan industriel, on a à l'évidence un outil industriel français qui a été largement délaissé, sous-utilisé. Si on fait au global ce qu'est Renault en France, c'est 22 000 salariés en moins depuis 2005. Si on regarde son ingénierie, parce que c'est pas très vieux, hein, au dernier salon d'automobile, Carlos Ghosn a réaffirmé que l'optique était de poursuivre, je cite, l'externalisation d'une grande partie de l'ingénierie, et en particulier toute l'ingénierie qui était axée sur le low cost, c'est-à-dire tous les véhicules Dacia, etc., etc., en multipliant les ingénieries à l'extérieur. Ce qui fait que, y compris l'ingénierie, aujourd'hui, c'est une tour de contrôle pour ne pas reprendre, c'est donc de faire ailleurs et de ne plus faire soi-même. Pour résumer, en fait, nous, on a plutôt, à l'intérieur de l'entreprise, ce qu'on constate, c'est plutôt une fragilisation de l'entreprise, avec un taux d'intérimaire qui est quand même extraordinaire, un taux de prestataire extraordinaire, et qui, du coup, a fait perdre à Renault beaucoup de ses qualités, de ses compétences, de ses métiers, et qui nous pose fondamentalement aujourd'hui un problème.
Ce qui posera aussi la question de la place de l'État, quelle doit-elle être la place de l'État actionnaire à hauteur de 15%. Mais d'abord, je voudrais vous demander, Bernard Julien, jusqu'à quel point cette alliance peut être aujourd'hui déstabilisée, fragilisée par l'affaire Carlos Ghosn. Pour le dire autrement, dans quelle mesure est-ce que l'alliance était vraiment incarnée par la personne de Carlos Ghosn ?
Oui, alors moi là-dessus, je pense qu'il y a un peu de chantage politique, si vous voulez. Et il a joué de cette idée selon laquelle l'alliance se tenait entre ses mains, d'une certaine manière. Et on savait qu'il y aurait un moment où on allait vérifier que c'était le cas ou non. Et de fait, quand on regarde l'ensemble des dossiers, on s'aperçoit qu'il y a d'assez larges irréversibilités qui ont été créées. Il y a des outils de production qui sont partagés, il y a des projets qui le sont aussi. Il y a aujourd'hui des technologies sur les nouvelles motorisations qui relèvent de l'un ou de l'autre, et tout ceci fait que, comme on l'a entendu du reste depuis le début de la semaine, la mise en cause de l'alliance comme une réalité industrielle et opérationnelle apparaît très difficile à remettre en cause, même si les très vives tensions en termes de gouvernance vont faire que chacun va utiliser l'argument de la rupture comme un argument politique dans les mois à venir.
Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du rapport de force, Julien Dupont-Calbeau, entre Renault et Nissan, en sachant que Nissan fait beaucoup plus à la fois de volume et de profit?
Alors, en termes de profit, c'est pas vrai depuis deux ans, puisque effectivement la performance de Renault est meilleure que celle de Nissan depuis deux ans.
C'est sûr. Vous faites bien le préciser.
En termes de volume, effectivement, Nissan depuis le début du siècle a bien repris des couleurs.
Donc 5,8 millions de voitures côté Nissan contre
3 millions, je crois, pour Renault avec Dacia. Dacia, ça compte aussi, parce que je suis pas sûr que ces voitures-là soient moins rentables à vendre que les Renault.
Sur ce rapport de force,
c'est sûr que c'est Renault qui a racheté Nissan. qui a pris le contrôle de Nissan en prenant 43% des parts au début du siècle. Et aujourd'hui, Nissan est devenu plus gros. A récupéré, devenu plus gros. Donc aujourd'hui, c'est un peu le petit qui contrôle, qui est censé contrôler le gros. Et le gros, en fait, veut se défaire un petit peu du carcan du petit pour au moins rééquilibrer l'alliance, si ce n'est prendre le contrôle de l'alliance.
Avec un nouvel arrivant qui s'appelle Mitsubishi, la troisième entité de l'alliance. D'ailleurs, comment se positionne aujourd'hui Mitsubishi dans cette affaire, Bernard Julien?
Mitsubishi, je veux dire, il y a un paradoxe ici, puisque Mitsubishi est contrôlé à 35% par Nissan, et Mitsubishi se comporte comme si Nissan était le patron, quoi. Alors que d'autre part, on a Renault qui possède, on l'indiquait, 43% du capital de Nissan, et Nissan n'a de cesse de montrer qu'ils sont pas sous contrôle, quoi. Donc il y a une espèce d'étonnement qu'on peut avoir ici quand on regarde les choses sur le papier, qui est lié au fait que, au tout début, le jeu a un peu été joué comme ça, c'est-à-dire qu'on a dit on vous met sous contrôle, mais on vous laisse japonais. Et puis ensuite, il y a eu quand même le moment où Carlos Ghosn quitte, vient prendre la direction de Renault en promettant qu'il allait quitter Nissan et en conservant Nissan. Et du coup, évidemment, il joue double jeu, si vous voulez. C'est-à-dire que et quand on compare les volumes tels que on les comparait il y a un instant, on s'aperçoit qu'il y a quand même 1 200 000 voitures qui sont produites par Nissan en Chine parce que Carlos Ghosn a décidé, au terme d'une espèce de yalta, que Renault n'irait pas en Chine et que ce serait Nissan qui irait. Donc le déséquilibre qui est politiquement invoqué à tout instant est un déséquilibre qui a été en large partie fabriqué, dealé par le dirigeant.
Julien Dupont-Calvé.
C'est aussi le cas pour les États-Unis aussi, où Renault n'est pas encore présent aux États-Unis, tandis que Renault est plus fort en Russie avec le rachat d'Avtovaz aussi. Donc ça, mais bon, est-ce que Avtovaz compense Mitsubishi?
Et en même temps, le Yalta que j'évoquais n'est jamais très équilibré, puisque quand Renault prend pied et réussit au Brésil ou en Russie, Nissan demande à être derrière. Ça n'a pas été le cas en Chine jusqu'à très récemment et probablement trop tard. Ça n'a pas été le cas aux États-Unis non plus. Donc on sent bien que les dés sont un peu pipés et qu'ils ont été pipés par Carlos Ghosn assez largement.
On a beaucoup dit que la chute de Carlos Ghosn était liée aussi à une volonté des Japonais, sans doute, de reprendre la main dans une certaine mesure. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait véritablement un déséquilibre entre les deux entités.
Vous savez, quand on est dans l'entreprise, si je prends l'ingénierie par exemple, les deux derniers accords de compétitivité ont donné lieu à des réorganisations hiérarchiques à l'intérieur de l'entreprise, dans le cadre précisément de l'Alliance. Or aujourd'hui, une grande partie de l'ingénierie est directement chapeautée par des Japonais. Et que le sentiment en interne, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que d'un côté, on fragilise Renault. Juste un chiffre, 2013, fin 2016, c'est 10 000 salariés qui ont quitté Renault. Donc évidemment, c'est 10 000 salariés, dont une partie de l'ingénierie, avec leurs qualifications, leur savoir, et qui n'a pas été sans conséquence pour la bonne marche de l'entreprise. Résultat, quand il est question de faire un choix entre qui va développer tel ou tel produit, Nissan ou Renault, le sentiment en interne, c'est de dire, c'est systématiquement quasiment Nissan qui emporte le morceau.
Concrètement, les Japonais souhaitent aujourd'hui une révision des participations croisées. Je rappelle que donc Renault détient 43% de Nissan, mais que le constructeur japonais, lui, ne possède que 15% de Renault à l'heure actuelle, Bernard Julien.
Oui, alors il y a ce souhait qui est maintenant, je dirais, presque récurrent. En même temps, comme je l'indiquais, a priori, Renault a les moyens de contrôler Nissan, que le contrôle soit exercé, si vous voulez, d'une certaine manière. Parce que cette idée selon laquelle le Japon exige que, etc., est une idée qui avait été assez largement fabriquée par Carlos Ghosn pour se donner les coups des franches dans le cadre, un, de sa gestion du dossier Renault, deux, de ses rapports avec l'actionnariat. Donc j'espère que les événements qui sont en train de se dérouler permettent de remettre l'église au milieu du village et de dire qui tient le manche au fond, quoi.
On a aussi pu entendre que les rumeurs de fusion entre Nissan et Renault, donc qui irait donc plus loin qu'une simple alliance, auraient pu accélérer la chute de Carlos Ghosn. Qu'est-ce que vous en pensez, Julien Dupont-Calbo, et pourquoi les Japonais sont défavorables, semble-t-il, à ce projet de fusion?
Alors, c'est un sujet assez complexe parce que la chute de Carlos Ghosn intervient dans un moment assez particulier pour l'Alliance, parce que quand Carlos Ghosn s'est fait renouveler à la tête de Renault il y a quelques mois, le mandat donné par l'État français, qui est le premier actionnaire de Renault, c'était justement d'intégrer définitivement l'Alliance pour permettre à l'Alliance de perdurer après le départ de Carlos Ghosn, qui allait partir à la retraite dans les dans l'année, dans les deux ans, dans les trois ans qui viennent. Donc c'était vraiment ça. Donc c'est vraiment un moment particulier qu'intervient cette édition de Carlos Ghosn.
Et les Japonais ne souhaitent pas cette fusion ?
Après, c'est pour ça aussi que c'est important qu'un groupe soit fort économiquement. C'est pour éviter de se faire avaler ou se faire manger par un plus gros que lui, par quelqu'un en plus bonne santé que lui. Alors c'est sûr que les Japonais, on peut comprendre parce qu'ils ont l'air ils sont rétablis financièrement. Enfin, ils sont plus ou moins rétablis financièrement. Ils sont plus grands en termes de volume et de chiffre d'affaires que Renault. Donc ils se disent pourquoi le petit va nous manger définitivement. Et si on fusionne, il faut rééquilibrer les choses.
Bernard Julien, sur cette idée de fusion.
Moi, il y a deux niveaux, si vous voulez. Il y a une problématique politique qu'on vient d'évoquer, et puis il y a une autre problématique qui est posée depuis le début, qui est la problématique opérationnelle fonctionnelle. De ce second point de vue, pour avoir vu fonctionner des projets Renault-Nissan, je suis convaincu que il est quasiment impossible, sans casse majeure, et Fabien Gache le disait tout à l'heure par rapport aux ingénieries, de fusionner les méthodes. Parce que les Renault ont le sentiment que c'est un appauvrissement terrible de leur capacité d'innover, de leur manière de travailler, etc. Et que du côté Nissan, ils ont l'impression que ils vont vers des méthodes pas très sérieuses, etc. Donc cette idée qui ressemble un peu à une copie de MBA, je me répète, mais qui consiste à dire ça sera mieux quand tout sera fusionné, est une très mauvaise idée de mon point de vue, qui traîne un peu partout, y compris dans le conseil d'administration, y compris peut-être au niveau de l'agence des participations d'État. Et si on peut gagner quelque chose à l'épisode actuel, c'est peut-être de stabiliser cette idée d'alliance en disant bah non, on peut pas y arriver, c'est pas pour autant qu'on doit splitter, c'est pas pour autant qu'on doit divorcer, mais l'idée que il faille aller vers un ensemble complètement intégré est une mauvaise idée. Prenons-en acte et essayons de stabiliser l'alliance après Ghosn, en trouvant une gouvernance à l'alliance.
Est-ce qu'il faut voir derrière peut-être l'arrestation de Carlos Ghosn aussi une tentation protectionniste du côté du Japon, 150 ans après le début de l'ère Meiji, qui correspond à ce moment vraiment où l'archipel s'est ouvert, Bernard Julien?
Il est bien évident qu'il y a un réflexe nationaliste, et je pense que la manière dont la presse japonaise traite aujourd'hui l'épisode relève un petit peu de cela. Mais je pense que de toute façon, on est confronté à cela dans la vie de l'industrie automobile de manière récurrente, et que malgré tout, ça coopère internationalement et que on peut difficilement faire sans cette réalité qui est globale dans l'industrie automobile.
Fabien Gache, sur cette idée de fusion et aussi peut-être plus généralement sur le système d'alliance dans le secteur de l'automobile qui est peut-être plus viable qu'une fusion pure et dure. On sait que l'industrie automobile est plus marquée par les divorces que par les mariages réussis.
D'abord deux choses qui a été dit tout à l'heure, effectivement, avec 43% Renault à la main et par le biais de Renault, l'État français. Donc nous on pense que l'État français devrait assumer ses responsabilités dans le domaine et en particulier de mettre l'occasion, les données sur la table, la problématique en tout cas telle qu'elle, je l'ai évoquée tout à l'heure, là je parle du point de vue de Renault bien évidemment, pour voir dans quelle mesure l'alliance, moi je partage, la fusion, je pense que globalement la fusion, y compris en interne, peut être demandée par quelques-uns, mais à des fins qui sont loin d'être des fins sociales ou en tout cas de préservation de l'outil industriel Renault, mais plutôt à des fins capitalistiques ou en tout cas d'augmenter la valeur de l'action. Donc je pense que oui, il faudrait, alors nous on est dans une relation un peu différente puisqu'on considère que c'est nécessaire de travailler avec d'autres, mais là, dans le cadre d'une coopération. Comment on peut coopérer? Et la coopération peut ne pas passer, peut continuer à passer, peut aussi ne pas passer forcément par des liens capitalistiques.
Here we go. C'était My Friend's Cars des Tokens. Nous sommes toujours avec Bernard, Julien, Fabien Gache et Julien Dupont-Calbeau pour parler de l'avenir de l'alliance entre Renault, Nissan et Mitsubishi. Et je voudrais qu'on revienne aux conséquences à la fois économiques et sociales que pourrait entraîner cette période de troubles qui s'annonce et notamment aussi sur le fait que la direction de Renault pourrait être amenée à changer. Fabien Gache, sur les changements et les troubles chez Renault.
Par rapport à ça, nous, ce qui nous préoccupe, c'est pas le changement des individus, c'est très concrètement la stratégie de l'entreprise. Est-ce qu'on continue à être autiste quant à la situation que l'on connaît, que j'ai décrite tout à l'heure, hein, sur l'intérieur de l'entreprise? Ou à l'inverse, est-ce que on est en capacité aujourd'hui de mettre sur la table, avec l'ensemble des acteurs, et j'y intègre bien sûr les organisations syndicales, les problématiques auxquelles on est confronté? Par exemple, dans le cadre actuel, ça fait partie aussi des choix qui nous ont été imposés. Renault, par exemple, compte tenu du Dieselgate, des modifications des normes, on est dans une situation qu'on n'a jamais connue chez Renault, c'est-à-dire avec une incapacité aujourd'hui d'avoir la motorisation nécessaire à équiper les véhicules dans l'état actuel des choses, par exemple. On a vu l'obsession de Carlos Ghosn à refuser coûte que coûte d'aller vers l'hybride, pour au bout du compte dire on va quand même en faire un peu de manière transitoire, mais avec une incapacité de Renault à pouvoir sortir dans les délais une offre aux clients, puisqu'on ne pourra pas le faire avant 2020. Bon, bref, nous on pense que c'est ça qu'il va falloir mettre sur la table, et puis que la boussole de l'entreprise ne soit pas le taux de profitabilité ou le taux de marge ou en tout cas le montant des dividendes, mais qu'il soit plutôt au long cours et pas court-termiste, en y intégrant une volonté de développer l'outil industriel et l'ingénierie française.
Il faut préciser que Carlos Ghosn est encore PDG de Renault, mais que Thierry Bolloré a été désigné directeur général délégué pour le remplacer en son absence. Et Emmanuel Macron a déclaré que le gouvernement ne demanderait pas l'éviction de Ghosn sans la preuve que ses actions illégales impliquent des activités en France. Est-ce que vous attendez un changement de stratégie de la part de Thierry Bolloré, Fabien Gache?
Mais nous, bien sûr. Mais ce qu'on attend surtout, c'est qu'on puisse en discuter le plus ouvertement possible, compte tenu précisément de la situation. Nous, on n'est pas dans la situation de dire il faut abandonner l'alliance coûte que coûte. Je pense qu'il faut la rediscuter. Mais qu'on la rediscute sur la base que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avec une certaine autonomie pour l'entreprise qu'est Renault, eh bien, de préserver sa base nationale et plutôt de la reconquérir, en commençant par reconquérir un certain nombre de ses métiers.
Cela pose aussi la question, évidemment, de la gouvernance de Renault-Nissan. Selon vous, Bernard Julien, à quoi pourrait ressembler cette gouvernance après l'ère Carlos Ghosn qui aura duré près de 20 ans?
En gros, la problématique, c'est un peu celle du passage d'une autocratie à une démocratie. Donc aujourd'hui, dans l'Alliance, s'il y avait à rendre des arbitrages, c'était presque fatalement Ghosn qui les rendait. On doit aujourd'hui aller vers un régime où il y aurait des procédures d'arbitrage, une capacité à faire fonctionner cette alliance sur un mode qui soit plus transparent, plus collégial, avec des procédures qui soient conçues. Il y a ce schéma-là, l'autre schéma c'est la fusion, je n'y crois pas. Par conséquent, il faut absolument que cette espèce de montage un peu baroque qu'est l'alliance puisse trouver une formalisation.
Le Japon va pousser, a priori, pour que ce soit un Japonais qui prenne la tête de l'alliance. Julien Dupont-Calbeau, vous y croyez ?
Dans les statuts du Rama, qui est le nom assez barbare de l'accord qui régit les relations entre Renault et Nissan, c'est le mandataire social de Renault qui est automatiquement mandataire social, enfin qui est patron de l'alliance Renault-Nissan. C'est dans les statuts. Donc en gros, je suis pas juriste, mais je pense que le patron de Nissan ne peut pas devenir le patron de Renault-Nissan en l'état. D'accord. Après, tout ça peut être renégocié, mais en l'état, c'est pas possible.
Mais en tout cas, dans le cas de figure, parce que vous parliez aussi, Bernard Julien, d'une possibilité d'un binôme avec une présidence tournante, on pourrait avoir Thierry Bolloré, donc actuel numéro 2 de Renault et qui assure la présidence en attendant, qui composerait avec son homologue de Nissan, donc Hiroto Saikawa.
Oui, on peut imaginer un montage de ce type-là. Alors, c'est vrai que c'est pas absolument conforme au Rama, mais c'est effectivement ce qu'il va falloir que les ministres de l'économie japonais et français, et puis ensuite les deux entreprises arrivent à stabiliser. C'est hein, aujourd'hui dans les comités alliances, hein, vous avez assez systématiquement un Renault, un Nissan sur chaque dossier, avec l'un qui a le lead sur l'autre. Donc on peut imaginer, hein, mais évidemment. Avec un montage de ce type-là, on peut pas aller vers une intégration très forte et on peut pas accélérer les communalités comme certains l'avaient rêvé. C'est ça qu'il faut acter aujourd'hui, il me semble.
Vous appelez, en tout cas Fabien Gache, à ce que l'État actionnaire donc de Renault à hauteur de 15%, comme on l'a dit, s'engage davantage dans les affaires du constructeur français. Alors, quel pourrait être son positionnement ?
Ben, on l'a dit, indirectement... l'État a la main sur Nissan, donc a un poids considérable. Moi, j'ai entendu le ministre avant-hier. Ce qui m'échappe, c'est que on persiste à faire preuve un peu d'autisme quand le ministre explique qu'il va falloir s'assurer du taux de profitabilité de l'entreprise. Et encore une fois, je l'ai dit, ça a été la boussole et l'unique boussole de l'entreprise, et on y voit les résultats. J'aimerais bien que on sorte un peu de cet aveuglement-là et qu'on regarde les questions sociales en France, les questions industrielles. J'ajoute quand même que Renault bénéficie de fonds publics qui se chiffrent par millions si on fait la totalité depuis 2005, et que à ce titre également, parce que force est de constater que les fonds publics ont plutôt servi à l'externalisation ou à la délocalisation. Donc je pense que d'autant plus l'État a un mot à dire, mais là encore, à partir du moment où tous les acteurs sont autour de la table et d'être en capacité de regarder la situation telle qu'elle est.
Comment on pourrait caractériser ce qui a été le positionnement de l'État jusqu'ici, Bernard Julien, vis-à-vis de Renault ?
En gros, il y a une espèce de positionnement un peu coupable de l'actionnaire public qui dit « je suis actionnaire mais je n'interfère pas dans les affaires de Renault ». Donc ça, on le connaît finalement depuis pas mal d'années. On évoquait « Mes années Renault », le bouquin de Schweitzer qu'on a les uns et les autres lu il y a quelques années maintenant. Il se vantait de n'avoir jamais eu un coup de fil de son actionnaire. Et par conséquent, il y a aussi pas mal de duplicité quand on dit que la partie japonaise ne supporte pas que l'État soit dans le tour de table, puisque au fond, ils n'ont jamais entendu cet État français dans aucune des affaires qui les ont concernées. Et le seul moment où l'État a semblé lever le doigt un peu timidement pour dire que il était là, c'est quand il a exercé les doubles droits de vote et que ça a bloqué en partie le rééquilibrage actionnarial, etc. Donc je pense que là, encore une fois, il y a une forme de clarification qui devrait, selon moi, être l'issue de ce process-là, où Renault et l'État français derrière disent on a 43% jusqu'à nouvel ordre, c'est ainsi, et puis le déséquilibre des volumes ou des profitabilités, c'est quelque chose qui est parfaitement fortuit et qui n'a aucune conséquence la plupart du temps dans ces process dans le capitalisme mondial, d'une certaine manière.
Julien Dupont-Calvo, l'État français est susceptible de changer son positionnement, son attitude vis-à-vis de Renault ?
C'est une question assez compliquée. Je rappelle aussi que l'État français a eu plusieurs fois maille à partir avec le conseil de Renault et Carlos Ghosn sur la question du salaire aussi, parce que pendant longtemps, l'État votait contre le salaire de Carlos Ghosn en assemblée générale.
Il votait contre d'autant plus volontiers qu'il savait qu'il passerait quand même.
Oui. C'est pas faux.
Carlos Ghosn qui avait accepté une réduction de 30% de son salaire il y a quelques années.
Vu qu'il a compensé par ailleurs.
Oui, alors en l'occurrence, les faits ne sont pas encore prouvés.
C'est vrai que la règle générale dans les participations de l'État dans le secteur industriel, c'est de laisser faire plutôt la direction de l'entreprise à gérer les affaires courantes, à gérer la stratégie et d'intervenir que quand il y a vraiment des choses très graves.
Alors plus largement, quelles conséquences est-ce que cette affaire pourrait avoir sur l'industrie automobile qui est marquée en ce moment par le ralentissement des ventes et puis aussi les menaces de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, Bernard Julien ? Quel est aujourd'hui l'état de santé de l'industrie automobile ?
Il est vrai qu'il y a un certain nombre d'alertes qui se sont allumées un petit peu en Chine quand même, aux États-Unis assez clairement maintenant, et puis en Europe depuis 2-3 mois, hein, et que par conséquent, l'espèce d'air de relative facilité dans laquelle on a évolué depuis 3-4 ans va conduire à des situations un petit peu plus tendu, un peu partout, hein, effectivement, dans un univers un peu darwinien, ça va permettre de vérifier que chacun est solide, quoi. De ce point de vue-là, il me semble que Renault, d'une part, et l'Alliance, d'autre part, sont pas les plus fragiles, et accessoirement, dans l'Alliance, c'est plutôt Renault qui serait en position favorable que Nissan, qui est beaucoup plus exposé au risque américain d'une part et au risque chinois, et on le voit d'ailleurs hein, dans les comptes de Nissan 2018 qui sont pas très bons, hein, et bah, là encore, hein, on ne peut pas ne pas s'interroger sur le fait que les événements se manifestent à un moment où le rééquilibrage en termes de profitabilité est assez manifeste.
Nissan plus exposé que Renault aux difficultés que traverse l'industrie automobile. Julien Dupont-Calbeau, vous êtes d'accord ?
Oui, je confirme. Après ça, c'est l'aspect effectivement sectoriel automobile mondial, mais il y a aussi un autre élément qui me paraît assez important. C'est un petit peu l'époque assez particulière que vit l'industrie automobile en ce moment, puisqu'il faut investir énormément dans la voiture électrique, dans les voitures hybrides, on a parlé, il faut éventuellement penser à l'hydrogène, il faut penser à la voiture connectée, il faut penser à la voiture autonome, et ça coûte très 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 cher, dans un contexte où effectivement les marges devraient plutôt se réduire avec le ralentissement du marché mondial, et dans un contexte aussi, il faut encaisser le choc du diesel, puisque notamment en France, les appareils industriels de Renault et de PSA sont assez tournés vers le diesel, et vu la rapidité du déclin des ventes du diesel, il va falloir s'adapter. Et ça risque de coûter assez cher aussi, puisqu'il faut effectivement mettre des lignes de fabrication de moteurs essence. C'est pas facile.
Et selon la Tribune, cette affaire Carlos Ghosn survient peut-être le pire moment pour l'industrie automobile. Vous êtes d'accord, Fabien Gache ?
Bon, écoutez, je sais pas. En tout cas, puisqu'on parle de la motorisation, par exemple dans le cadre de l'Alliance, Renault avait plutôt été sur le diesel quand Nissan était sur l'essence. Plus globalement, la filière automobile française, qui sont les fournisseurs de Renault, travaille essentiellement sur le moteur diesel. Et c'est vrai que dans l'état actuel des choses, on a une grande interrogation sur ce que va devenir, au-delà de Renault, y compris les fournisseurs. Je pense à mes camarades de la fonderie du Poitou, par exemple. Ça fait 6 mois que la question est posée à Renault, dont on ne sait toujours pas dans quelle mesure ils auraient une certaine activité. Par contre, c'est pour ça que je pense que l'État, plus que jamais, a un rôle à jouer et a des choses à dire. On apprend qu'au moment où on s'interroge sur le devenir de certaines entreprises qui travaillent sur le diesel, on apprend des investissements de Renault, par exemple en Turquie, sur de l'aluminium pour travailler sur l'hybride et qui ont à destination d'être réexportés en totalité Espagne pour répondre aux besoins de Renault et dans une moindre mesure sur la France. On apprend des investissements en Espagne sur, là aussi, une certaine sorte de pièces hybrides en aluminium, alors qu'on est absolument dans l'inconnu quant au devenir des activités de fonderie, par exemple, si je prends cet exemple-là. Donc, indépendamment de l'affaire, de toute façon, ces questions-là, elles étaient posées.
Alors, on arrive au terme de cette émission. Un mot de conclusion, peut-être, sur les leçons à tirer de cette crise et de la chute de donc, celui qui était considéré comme l'un des capitaines d'industrie les plus puissants au monde, Bernard Julien.
Moi, je pense qu'effectivement, c'est une occasion, Fabien Gache le disait, de reposer les questions de gouvernance et les questions politiques qui sont liées à l'automobile. Il y a évidemment autour du changement des motorisations, du changement de la réglementation et d'un épisode comme celui-ci, un besoin de construire un espèce de nouveau deal autour de l'automobile. C'est une industrie très politique. Les dynamiques de marché, les dynamiques industrielles sont très liées à des décisions de nature politique, hein, et donc il faut être à même d'avouer que c'est une industrie très régulée et qui dépend beaucoup des choix collectifs que nous faisons.
Pour vous aussi, Julien Dupont-Calbeau, la chute de Carlos Ghosn, c'est une occasion de repenser la gouvernance de cette alliance.
C'est ça. En fait, tout le monde se demandait de quel côté la pièce allait retomber une fois Carlos Ghosn serait parti. Et là, en fait, ça précipite des choses et c'est un peu l'heure de vérité pour l'alliance Renault-Nissan.
Fabien Gache, un dernier mot.
Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, je pense que l'État a une responsabilité et qu'il faudrait que, assez vite, d'ailleurs, maintenant, on puisse avoir engagé ce débat-là et qui pose une question de fond. Et encore une fois, qui prennent en compte, au-delà de la seule situation financière au sens des résultats financiers, au sens de la profitabilité, l'ensemble des paramètres, et à commencer par les paramètres sociaux que sont l'emploi, que sont les forces industrielles et d'ingénierie du pays.
Merci beaucoup Bernard Julien, Fabien Gache et Julien Dupont-Calbaud de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On va continuer évidemment à suivre de très près les suites de cette affaire. Il est 14h45 sur France Culture, l'heure de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho. C'était pas fini. Et aujourd'hui, c'est au Capital que nous nous attaquons. Je parle bien sûr de l'œuvre majeure de Karl Marx, parue en 1867. Le plus redoutable missile qui ait été lancé à la tête de la bourgeoisie, selon son auteur. Et pour nous aider à entrer dans ce monument de 1064 pages, et je ne parle que du livre 1, nous avons invité Bruno Tinel. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous avez traduit le livre de Ben Fine et Alfredo Saad Filho, Capital, introduction à l'économie politique de Marx, paru aux éditions Raison d'agir. Alors il ne s'agit évidemment pas de faire le tour de l'œuvre, mais plutôt d'en exposer les idées les plus marquantes. D'abord, qu'est-ce qu'il faut retenir de la vie de Marx, ballotté entre l'Allemagne, la France et l'Angleterre, qui nous permettent de mieux comprendre ce livre 1, le seul qu'il ait publié lui-même?
Tout à fait, sur les trois volumes, c'est le seul qu'il a publié lui-même. Eh bien, Marx est né il y a 200 ans, en 1818, en Allemagne, à Trèves, en fait, donc en Prusse, à l'époque, ce n'était pas encore l'Allemagne. Il est décédé en 1883, à Londres. Il a été à la fois le témoin, l'interprète de l'essor du capitalisme industriel en Europe. Il a été également un auteur et un acteur qui a contribué à structurer le mouvement ouvrier en lui faisant prendre conscience de ses intérêts propres, en contribuant à élaborer ses mots d'ordre et à mettre sur pied ses propres organisations. Et il a contribué en particulier à la fondation de l'Association internationale des travailleurs en 1864 à Londres. Donc Marx était à la fois un militant et un intellectuel. Il gagnait sa vie en étant journaliste. Et voilà, il a été très tôt choqué par la violence et l'injustice sociale, et ça, c'est un fil rouge, si je puis dire, qui relie toute son œuvre. Voilà, il a fait ses études en Allemagne, il a fait des études de droit et de philo, hein, et il a fait une thèse à l'université d'Iéna.
Et c'est à Paris qu'il rencontre Friedrich Engels.
Tout à fait, son grand copain.
Il va publier avec lui, voilà, le manifeste du Parti communiste, dans lequel on peut lire ces mots qui sont devenus célèbres. Les idées dominantes d'une époque n'ont jamais été que les idées de la classe dominante.
Absolument. Donc ils se sont rencontrés en 1844 à Paris, et ils publient ce texte en 1848, donc au tout début de la Révolution en France. Et c'est un texte assez exceptionnel, voilà, à lire par son style et par son contenu. Voilà. Et encore aujourd'hui, on entend régulièrement des gens qui publient quelques lignes et qui font beaucoup penser à la globalisation économique qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, bon, c'est le grand joke.
Voilà pour la biographie de Karl Marx. Alors venons-en au livre 1 du Capital, qui analyse donc le processus de production capitaliste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Bruno Tinel, la notion de plus-value ou de sur-valeur? Alors cela dépend des traductions. Qui caractérise, selon Marx, l'économie capitaliste?
Oui, alors effectivement, bon, ça c'est un petit peu le jargon de Marx. Ce qu'il appelle la plus-value, grosso modo, ça renvoie à l'idée de profit et de valeur nouvellement créée. Et l'idée fondamentale de Marx, quand il reprend Ricardo, c'est que Ricardo s'est trompé en analysant le rapport salarial. Le travail n'est pas payé pour ce qu'il produit, mais il est payé à sa valeur. Et son employeur, donc le capitaliste, lui, s'approprie ce qui est produit par le travailleur, d'accord? Et donc la différence entre ce que la valeur produite par le travailleur et ce que coûte au capitaliste pour l'embaucher le travailleur lui-même, cette différence, c'est la plus-value ou la sur-valeur. Voilà.
Et donc c'est l'idée que la valeur n'est plus un attribut naturel de la marchandise, mais elle devient en fait un rapport social.
Oui, bien sûr. L'idée fondamentale de Marx, c'est que ce ne sont pas les choses qui produisent tout seuls, ce sont d'abord les humains. Et donc, bien sûr, tout l'enjeu de Marx, c'est de comprendre comment, justement, dans des circonstances historiques spécifiques, eh bien, s'organise la production. Et du coup, comment, dans le mode de production capitaliste, les capitalistes font travailler les salariés. Et donc, l'objet principal de Marx, en fait, c'est de comprendre et d'analyser le mode de production capitaliste, comme il l'appelle.
Le capitaliste se situe en fait dans un circuit argent-marchandise-argent, où la marchandise est en fait un intermédiaire de la spéculation financière, et non dans un circuit où ce serait l'argent qui serait un intermédiaire des échanges concrets de marchandises.
Ah oui, alors justement, les choses sont très élaborées pour Marx, et dans la mesure où finalement il nous décrit un monde où c'est la marchandise qui règne. Ce qui est produit pour être vendu, et donc la finalité c'est vendre pour avoir de l'argent. Donc l'échange et la production s'organisent en vue d'amasser de l'argent qui sera relancé encore et encore dans le circuit économique pour apporter toujours plus d'argent. Donc j'accumule de l'argent pour relancer cet argent dans l'économie, acheter des moyens de production, des matières premières, des machines, de la force de travail, pour produire de nouvelles marchandises que je vendrai afin de dégager une plus-value et ainsi avoir plus d'argent qu'au début. Et je recommence, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un processus infini, car justement le processus est sa propre finalité. Et donc finalement, il s'agit d'analyser les principes de l'échange et le rôle de la monnaie dans l'échange, mais aussi d'analyser les principes de la production capitaliste, c'est-à-dire de l'organisation de la division du travail pour produire des marchandises, et donc l'importance du rapport salarial dont nous avons déjà parlé.
Bruno Tinel, selon Marx, la baisse du taux de profit qui est liée à la parcellisation des tâches et à la substitution des machines aux travailleurs illustre la contradiction interne du capitalisme. Marx est en fait le premier penseur à affirmer que les crises sont inhérentes au système capitaliste.
Effectivement, chez Marx, il y a l'idée que le processus d'accumulation et de développement, et donc ce qu'on appellerait aujourd'hui la croissance économique, est un processus qui n'est pas régulier, qui n'est pas harmonieux. C'est un processus qui est heurté, qui est contradictoire. Il est fait de moments d'euphorie, de boom, et de moments de crise et de dépression. Et effectivement, Marx, c'est le premier économiste, ou l'un des tout premiers, à penser justement ces fluctuations sous forme de crise et sous forme endogène. Voilà, c'est un grand penseur du cycle et de la crise. Il a énormément influencé un très grand nombre d'économistes. C'est un penseur extrêmement sécularisé. L'un de ses plus fidèles disciples, c'est Schumpeter. Schumpeter qui a en fait repris à peu près tout de Marx, sauf la théorie de la valeur, mais donc qui est très marqué par à la fois l'analyse de la production, l'analyse justement du lien entre organisation du travail et développement technique. Schumpeter est passionné comme Marx par l'histoire des techniques et aussi donc par l'analyse du cycle.
Jusqu'alors, les néoclassiques estimaient que seules les perturbations extérieures entraînaient des crises, et plus tard les néo-keynésiens accepteront l'idée que les crises sont propres au capitalisme, mais ils estimeront que l'État peut les prévenir ou les amortir.
Alors oui, on peut dire un peu les choses comme ça. Effectivement, avant Marx, on niait l'idée qu'il puisse y avoir des crises, quoique il y ait quand même eu quelques auteurs qui se sont quand même penchés sur le sujet. Mais surtout, ce qui est intéressant chez Marx, c'est qu'il voit que, en quelque sorte, il y a une forme d'anarchie dans le marché, que l'anarchie ne coordonne pas a priori, mais coordonne seulement a posteriori, en rejetant les marchandises qui n'ont pas été vendues, ce qui, justement, donne lieu à des crises de surproduction et à de très fortes instabilités. Et donc, il voit la nécessité d'une coordination a priori. Et donc, le courant qui se réclamera de lui au XXe siècle créera le planisme, le soviétisme, d'accord ? Mais une autre réponse au problème qui est identifié par Marx, c'est la réponse qui est apportée par Keynes, et en même temps pas seulement par Keynes, par tout un courant de la pensée économique, notamment qui commence aussi en Suède 20 ans avant Keynes, etc. C'est le courant qui pense la nécessité de la politique économique comme moyen de coordonner les activités privées.
Marx s'intéresse beaucoup au concept d'aliénation qu'il emprunte à Hegel, et pour certains observateurs, ce concept d'aliénation, c'est l'un des fils conducteurs des trois livres du Capital. Or, ce qu'il faut préciser, Bruno Tinel, c'est que l'aliénation chez Marx ne touche pas seulement les ouvriers.
Alors attention, ce terme, d'après mes connaissances, qui ne sont pas exhaustives, parce que Marx a écrit tellement que je ne prétends pas avoir lu tout ce qu'il a écrit, le terme d'aliénation, il l'utilise surtout dans ses premiers écrits, dans ses écrits de jeunesse. À l'époque où il écrit dans le Capital, il l'utilise beaucoup moins, voire pas. Mais l'idée me semble quand même juste, dans le sens où ce qui traverse le Capital, c'est effectivement l'idée que l'économie rend l'humain étranger à lui-même, et en quelque sorte le rend esclave des choses qu'il produit lui-même. Et donc finalement, l'humain lui-même est chosifié. Et donc ça, c'est très clair quand il analyse le rapport salarial, d'accord, où justement il insiste sur la violence en fait qui s'impose aux producteurs, mais c'est vrai aussi quand il analyse la concurrence intercapitaliste, dans le sens où les capitalistes eux aussi sont au fond le jouet et subissent la violence de la concurrence dans laquelle ils se lancent.
Par ailleurs, Bruno Tinel, on ne peut évidemment pas comprendre le Capital sans prendre en compte sa forte dimension historique. Le moteur de l'histoire, nous dit Marx, c'est la lutte des classes. Et selon lui, les dysfonctionnements internes au capitalisme dont on a parlé mèneront au communisme. Un siècle et demi après la publication de cet ouvrage, que retenir de cette vision de l'histoire ?
Alors effectivement, donc Marx pensait avoir découvert les lois de l'histoire et parfois quand on le lit, on a l'impression justement que il avait l'impression qu'il y avait une sorte de mécanicité dans ces lois de l'histoire. Bon, peut-être que ça marche pas aussi simplement, ou en tout cas pas à l'échelle historique que certains ont pu croire. Et puis c'est pas si sûr, on doit s'autoriser à penser que le capitalisme n'est pas éternel, mais de là à penser que ce qui succède au capitalisme, c'est ce que Marx décrit plus ou moins comme étant le communisme, je ne sais pas. Sachant que Marx ne dit pas grand-chose sur le communisme, il dit surtout beaucoup de choses sur le capitalisme.
Et comment on pourrait la définir, cette vision de l'histoire par Marx ?
La vision de l'histoire par Marx, c'est quelque chose qu'on peut retenir non pas d'un point de vue finaliste, qui a été un moment celui de la pensée dite marxiste, mais il me semble que ce qui est très intéressant à retenir de Marx, justement, c'est qu'il historicise les concepts, d'accord ? Et il analyse les choses de manière systémique, alors que habituellement, ce sont tout un ensemble d'éléments qu'on analyse séparément. Ne serait-ce qu'en macroéconomie, très souvent on fait de la macroéconomie d'un côté, puis on fait de la finance de l'autre, et on analyse assez peu les liens entre macro et finance, alors que ça serait quand même la moindre des choses. Mais lui, en plus, ajoute beaucoup de choses. Il ajoute les dynamiques sociales, il ajoute le rôle de l'État, etc. Voilà. Et en plus, donc, il y a une méthode, d'accord, profondément rigoureuse chez Marx, pour interroger les concepts, et pour justement les analyser dans leur propre transformation, en lien avec l'évolution du monde social.
En quoi consiste sa méthode ?
Sa méthode, c'est ce qu'il appelle la méthode dialectique, d'accord, et qui est inspirée en fait de sa formation philosophique qu'il a appuyée chez Hegel. Dans la pensée hegelienne, les contradictions s'affrontent et elles se résolvent dans la synthèse. Mais au fond, quand on lit Marx, on comprend que les contradictions, elles peuvent s'affronter très très longtemps avant qu'il y ait une synthèse. Hein, et finalement, l'histoire, au fond, c'est le développement, le déploiement, la transformation perpétuelle de ces transformations, hein, sans peut-être qu'aucune synthèse n'arrive jamais, je ne sais pas.
Et alors, quel conseil, Bruno Tinel, donneriez-vous aux lecteurs qui souhaiterait s'attaquer aux 2500 pages que constituent les trois livres du Capital?
Être très patient, ne pas le lire qu'une fois, mais le lire 20 fois. Plus on le lit, plus c'est passionnant, parce qu'évidemment, c'est un langage qui nous est de plus en plus étranger, bien qu'il ait été, comme je l'ai déjà dit, très diffusé, très sécularisé. Ne pas commencer par la première section du Capital, qui est un peu ardue, mais commencer plutôt par la deuxième section, la transformation de l'argent en capital. Et puis même, on peut lire, pourquoi pas, le livre qu'il a publié en 1859, Critique de l'économie politique. C'est dans ce livre, en fait, en faisant ce livre, qu'il a élaboré le projet du Capital.
Vous diriez qu'aujourd'hui la pensée de Marx reste d'actualité ?
Elle reste d'actualité à condition de ne pas en faire un dogme, mais d'en faire une boîte à outils, un exemple pour penser des choses nouvelles, ne pas reproduire à l'identique.
Merci beaucoup Bruno Tinel de nous avoir éclairé sur ce monument qu'est le Capital de Karl Marx. Je rappelle l'un de vos ouvrages, Dette publique, sortir du catastrophisme, publié aux éditions Raison d'agir. Et quant à nous, nous reviendrons sans aucun doute sur cette œuvre immense à l'occasion d'un prochain épisode de la Bibliothèque idéale de l'Écho.
Con un saludo sincero por el esfuerzo creador, ahora le canto al obrero, proletario, jornalero, en fin al trabajador. Y con alegre tonada quiero decirles a todos, los sindicatos obreros, para lanzarse a la lucha, deben darla de dos modos. Los sindicatos obreros, para lanzarse a la lucha, deben darla de dos modos. Y dos formas de luchar, según es mi entendimiento. Lucha económica una, lucha política la otra, y las dos al mismo tiempo. Lucha económica una, lucha política la otra, y las dos al mismo tiempo.
Como lo diro Marx de Judith Reyes. C'est la fin de cette émission. Un grand merci d'avoir été à l'écoute. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur la grande aventure des transports. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.